la mort sociale. C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à fermer les yeux volontairement. On n'a pas envie de voir ce qui nous dérange parce que ça nous renvoie à nos propres angoisses. Parce que dans le fond, on est tous pareils. Hein.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir mais aussi une grande fatigue que je vous accueille non pas dans le 619e mais le 3119e épisode de Zoom Zoom Zen, qui est en ce mois de novembre 2045 l'émission la plus vieille du PAF. Elle ne dure plus 2 heures mais 45 minutes entrecoupées de 5 disques conformément à l'autonomie maximum de ma vessie. Nous sommes toujours dans le studio 611 rebaptisé en 2042 studio Cyril Lacarrière en hommage à notre rédacteur en chef décédé dans des circonstances terribles un midi au bistrot Blériot où, épuisé par l'écriture d'où ça sort, il a soudain piqué du nez et s'est noyé dans son île flottante. Comme, à part Jérôme Kerviel, il était seul dans le restaurant ce jour-là et que Kerviel n'a pas bougé d'un petit doigt, c'est Christine qui l'avait retrouvé inanimé et qui avait tenté le bouche-à-bouche de la dernière chance, en vain. Depuis, l'ambiance n'est plus la même au sein de l'équipe, estimant, je cite, qu'il avait fait son temps le fossile. Manon et Quentin m'ont évincé de la présentation de l'émission, m'attribuant désormais simplement une place autour de la table. C'est sympa, tu seras notre Patrice Carmouze, m'avait lancé Manon pour me convaincre, une décision que n'ayant plus aucun appui auprès de la direction, ni aucun ami dans la maison, ni d'ailleurs aucun ami tout court, j'ai accepté. Un jour d'ailleurs que je dessinais machinalement sur la table pour m'occuper parce que je ne comprenais rien au sujet de l'émission, Quentin a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Ça va papy? Tu comprends rien ce qu'on dit, c'est ça ?» Non, lui répondais-je, ému qu'il pense un peu à moi. Mais c'est pas grave, être là avec vous, ça me permet de conserver une forme de lien social. Manon, toujours dans la bienveillance et l'empathie, avait dit « Oui, puis de toute façon, c'est ça, ou Orpea ». J'avais acquiescé, Quentin avait changé ma sonde urinaire, et l'émission, ma foi, avait suivi son cours. Oui, en 2045, je ne serais peut-être plus très fringant, mais grâce à la gentillesse de Manon et Quentin, je ne serais pas mort socialement. On zoome aujourd'hui sur cette expression qui fait froid dans le dos, et qui concerne pourtant près de 750 000 personnes âgées en France aujourd'hui, des personnes qui vivent dans une solitude accablante, sans plus aucun lien familial ni social, qui restent parfois cloîtrées chez elles. Qui sont-elles? Pourquoi a-t-on tendance, nous les actifs, à ne plus les voir? Comment détecter un cas de mort sociale autour de nous? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Yann Lanier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes le délégué général de l'association des Petits Frères des Pauvres, une association française présente dans 10 pays dans le monde et qui lutte contre l'isolement des personnes âgées en particulier. Vous les accompagnez aussi lorsqu'elles vivent en situation de précarité. C'est un peu le résumé de la situation,
c'est ça? C'est très bien résumé, Mathieu, jusqu'à présent.
J'aime les invités qui vont dans mon sens. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que depuis 2017, les Petits Frères des Pauvres publient régulièrement une étude sur la mort sociale des personnes âgées. La dernière date de fin septembre. La mort sociale, de quoi s'agit-il? C'est l'objet de notre émission aujourd'hui, vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter les petites ordures qui s'imaginent déjà calife à la place du calife à l'horizon 2045. Quentin, lui, Manon Mariani, bonjour.
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 Bonjour Mathieu.
Soyez heureux de me dire bonjour.
Je suis heureux de dire bonjour, mais sachez d'abord que je suis très choqué par votre comportement en 2045.
Et
que
je serai plus délicat sur la sonde.
Oui, c'était une flottante.
Hein, ouais,
je vais prendre des dispositions légales pour que vous ne puissiez pas me virer de mon poste de présentateur. À vos côtés, Yann, méfiez-vous, si ça se trouve, c'est elle qui avait mis un somnifère dans l'île flottante de Cyril, ça ne m'étonnerait pas. Elle veut notre peau à tous pour régner en maître sur l'audiovisuel avec sa copine Léna Mafouf. Manon Mariani, en attendant de présenter Zoom Zoom Zen, vous nous présentez, c'est déjà pas mal, votre pièce jointe.
Et aujourd'hui, un méchant de comics qui a eu plusieurs vies au cinéma, on le connaît principalement pour être l'ennemi de Batman, mais figurez-vous qu'il est aussi un marginal laissé pour compte, qui est mort socialement avant de renaître plus fou que jamais.
Oui. Vous cherchez Mathieu ?
Et je cherche.
Bah, quand même. Mathieu, l'ennemi de Batman.
Ah, le Joker, oui, oh, il y en a plusieurs, il y a eu le pingouin et tout ça. Vous l'avez tous vu, moi. Oui, le Joker, inoubliable, Jack Nicholson. Bon, face à vous, Yann, c'est un miracle s'il a aujourd'hui une vie normale. De par ses goûts, qui sont ceux d'un homme de 90 ans, il s'était condamné lui-même à une forme de mort sociale. Pas étonnant d'ailleurs qu'il n'ait de son propre aveu jamais décroché un seul rendez-vous sur Tinder. Hein, qu'est-ce que t'écoutes ? Oh, bah, Guy Mardel et toi ? Ah oui, d'accord, mais. Mais tu connais
jamais,
pas
jamais,
oui,
jamais,
oui.
Jamais,
alors déjà, le jamais, rendez-vous déjà tourne un peu au vinaigre. Mais tu n'écoutes pas des artistes vivants jamais. Ah si, Nana Mouskouri. Bref,
banger.
J'ai un petit lien en plus avec Nana.
Sans nous, il n'aurait plus aujourd'hui aucun ami. Quentin, chaque après-midi, vous esquivez la mort sociale en partant à la rencontre des passants, histoire de voir ce que notre thème du jour leur inspire.
Bonjour, est-ce que vous êtes mort? Enfin, socialement, je veux dire. C'est ainsi que je me suis présenté à la foule ce matin.
Ça a du cartonner.
Micro inter à la main du côté de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Réaction, témoignage dans la rue, c'est dans la prochaine demi-heure.
On aurait dû passer à la maison, prendre le café.
Mais j'ai tapé, il n'y avait personne.
Oui, dans ma boîte, il y avait ma femme alors. J'aurais une explication avec elle. Avoir une vie sociale, c'est extrêmement important pour l'équilibre psychique d'un individu. Regardez-moi, je suis complètement taré. Pour mesurer à quel point l'interaction sociale est importante, nous partirons dans le Zoom Zoom Test à la rencontre de ces hommes ou ces femmes qui ont vécu en ermite, loin de tous, soit par choix, soit que leur navire a fait naufrage sur une île déserte. Ceux qui ont vu le film Seul au monde avec Tom Hanks ne seront pas avantagés puisqu'il n'y aura pas de questions sur les films. Ce sera un quiz 100% histoire vraie, Manon. Oh. Juste avant 17h, un roi de l'interaction sociale qui interagit tellement qu'il chope la Covid tous les 4 matins, GC, nous rejoindra. Après 17h, restez avec nous, on scannera l'actu du jour en compagnie de deux membres du groupe Feu Chatterton, un groupe que même Quentin estime, je cite, aussi important dans l'histoire de la variété française que Guy Mardel. Mais d'abord, zoom sur ce phénomène qui frappe des centaines de milliers de personnes âgées autour de nous. Yann Lanier, pour qu'on se rende bien compte que la mort sociale n'est pas rare hein, chez les personnes âgées, combien de personnes aujourd'hui en France sont dans cette situation ?
Vous l'avez rappelé Mathieu, les petits frères des pauvres établissent depuis 2017 un baromètre de l'isolement social. C'est ce baromètre aujourd'hui qui fait référence. Alors, en 2017, nous documentions 300 000 personnes en situation de mort sociale. Nous avons réitéré ce baromètre, 300 000 personnes de plus de 60 ans. Mmh. Ce qu'on le verra après, la mort sociale n'est pas malheureusement quelque chose de réservé aux personnes âgées, même si l'âge va amplifier le phénomène. Nous avons réitéré ce baromètre en 2021, on était un an après le Covid. 530 000 personnes en situation de mort sociale. Et puis là, le baromètre paru le 1er octobre à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, documentait 750 000 personnes en situation de mort sociale.
Et alors, pardon, le médecin déclare la mort quand il n'y a plus de pouls et que le cœur ne bat plus. Comment vous vous déclarez la mort sociale ? C'est quoi le critère ?
Non, on regarde les cercles de sociabilité d'une personne. Nous avons tous des cercles de sociabilité. Alors, on en a 5 normalement. La famille, les amis, les voisins, la vie associative et le travail. Nous, dans notre étude, étant donné qu'on s'adresse aux seniors, on a exclu le cercle du travail, mais on va qualifier les personnes en situation de mort sociale. Les personnes qui sont coupées des 4 cercles de sociabilité, c'est-à-dire avec des contacts inexistants ou des contacts sociaux extrêmement faibles avec ses voisins, avec sa famille et avec la vie associative.
On va rentrer dans le détail avec vous, Yann Lanier. Novembre 2045. Les pompiers échangent un regard désolé avec Patrick Peloux, arrivé en urgence au bistrot Blériot. Ils n'ont rien pu faire. Assis devant le prestigieux établissement, William, le propriétaire, qui a encore de la crème anglaise plein la chemise, pleure la mort de son ami. Car quelqu'un qui réalise à lui seul plus de 20% du chiffre d'affaires du restaurant est automatiquement répertorié comme un ami par William. Comme il l'a expliqué aux pompiers, il a tout essayé pour ramener Cyril à la vie après sa noyade dans l'île flottante, y compris sa petite astuce maison, une giclée de moulin à poivre dans les fesses.
Je comprends pas, Mathieu, d'habitude c'est une petite giclette du croc et hop, ça repart.
Cyril, heureusement nous ne sommes pas encore en 2045, Dieu soit loué. Ce qui va vous permettre de nous raconter, avec le plus grand sérieux, la mort sociale, d'où ça sort.
Eh bien imaginez, vous êtes encore là, toujours vivant comme Renaud, mais vous, plus personne ne vous voit. Les cafés sont bondés, les gens vont au boulot, les visages sont marqués, et au milieu du va-et-vient, il y a des gens qu'on ne regarde plus, ils ne sont ni morts, ni disparus, ils ont été effacés. Bienvenue dans la mort sociale, une disparition sans enterrement. Ce terme, on le doit au chercheur français Louis-Vincent Thomas. Il avait un petit sobriquet, anthropologue de la mort. En plus de la notion de mort sociale, on lui doit la thanatologie. La thanatologie, c'est un domaine de recherche qui recoupe et regroupe tous les savoirs théologiques, philosophiques et scientifiques relatifs à la mort.
Et puis la notion va être popularisée par 2 sociologues.
Oui, français eux aussi, Anne-Claire Defossé et Didier Fassin, qui l'utilisent dans les années 90 pour décrire des existences qui se prolongent sans reconnaissance officielle. Les sans-papiers, les chômeurs de longue durée, les prisonniers, les malades abandonnés par les institutions, les sans-domicile fixe et bien sûr les personnes très âgées. Aux États-Unis, le sociologue américano-canadien Erving Goffman avait parlé de la disqualification sociale, celle qui s'applique aux patients des hôpitaux psychiatriques. D'un concept académique, on est aussi passé à un diagnostic politique. On existe si on est dans un système productiviste. Et ceux qui n'en font pas partie, les très vieux, les très pauvres, les migrants, les malades mentaux, deviennent des invisibles, comme s'ils étaient effacés du récit collectif. Rappelez-vous d'ailleurs de ce que criaient les gilets jaunes, on n'existe pas. Alors, d'où ça sort la mort sociale est bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Yann Lanier, d'abord, si c'est possible de l'établir, est-ce qu'il y a un profil type de ces personnes âgées qui sont en situation de mort sociale ?
Non, on va avoir plusieurs chemins, malheureusement, qui peuvent mener à cette situation. Tout d'abord, vous avez des personnes qui, tout au long de leur vie, des personnes plutôt vulnérables, ont eu des petits cercles de sociabilité. Et il suffit simplement, comme un domino, de quelque chose qui bouge dans la vie, vous n'avez qu'un ami, et cet ami déménage, vous êtes en précarité, vous ne pouvez pas aller lui rendre visite, et petit à petit, de manière assez insidieuse, la mort sociale va s'installer. Et puis, on repère aussi beaucoup de personnes pour lesquelles des virages de vie vont être soit mal négociés, soit mal anticipés. Un déménagement, j'y venais, un licenciement. Aujourd'hui, quand par exemple une entreprise fait un plan de sauvegarde de l'emploi, on s'intéresse souvent au reclassement des personnes, mais quand notamment on licencie des personnes plutôt au-delà de la cinquantaine, le risque de mort sociale est quelque chose qui est encore très très mal pris en compte. Le deuil, bien entendu, est aussi un élément de mort sociale. Je rappelle souvent ce fait assez morbide, si la personne qui décède est celle qui, dans un couple, portait les relations sociales du couple, plus de 80% des relations sociales de cette cellule, de ce couple, vont disparaître dans les 3-4 ans qui vont suivre le décès de cette personne.
Mathieu Noël sur France Inter.
Être de plus en plus déconnecté de ses contemporains, ne plus voir ses amis, ne plus jamais sortir. Mathieu, pourquoi tu nous parles de toi? Êtes-vous en train de me dire? Je ne vous parle pas de moi, bougre d'andouille, arrêtez de rire, mais de ces personnes âgées qui vivent le terrifiant phénomène de la mort sociale. On en parle avec le délégué général des Petits Frères des Pauvres, Yann Lanier, qui est avec nous. Yann, dans votre dernière étude, vous faites le distinguo entre isolement et solitude. C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, l'isolement, c'est quelque chose qu'on va complètement subir. La solitude, on peut en ressentir le sentiment. Ça nous arrive à tous, des millions de personnes ressentent le sentiment de solitude à tous les âges de la vie, et puis on peut la rechercher parfois, notamment quand on a des vies sociales denses. On peut être amené à par moments être très très heureux de pouvoir vivre un peu et de se poser et d'être un petit peu seul. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont, par certains récits, magnifier la solitude. Il ne faut pas la confondre avec l'isolement social. L'isolement social, c'est vraiment quelque chose qui va malheureusement s'imposer et qui est une problématique sanitaire. Aujourd'hui, l'OMS parle même d'épidémie de solitude. Mais cette solitude, elle peut aussi conduire à ce phénomène ultime qui est l'isolement social.
Il y avait eu un événement qui nous avait aussi alerté sur la solitude et l'isolement des personnes âgées, c'est la canicule de 2003. Est-ce qu'on en avait tiré des leçons, ou est-ce que ça a changé, ou est-ce que rien n'a vraiment changé?
Alors on peut rappeler les éléments de la canicule de 2003, puisque ça date un peu maintenant, 22 ans. On a connu depuis de nombreux épisodes caniculaires. Aucun, heureusement, n'a fait 15 000 morts.
Voilà, c'est pas les mêmes
conséquences. Puisque l'épisode de 2003, c'était 15 000 morts. C'était un moment, vous avez cité Patrick Peloux tout à l'heure, Mathieu, Patrick Peloux qui alertait sur l'encombrement des urgences, et puis c'était même des entrepôts de Rungis qui étaient réquisitionnés pour stocker des cercueils. 400 cercueils n'ont jamais été réclamés. Après la canicule de 2003, je crois que certains, aujourd'hui, sociologues, etc., s'intéressent à cette sorte de cold case là-dessus. Ça a créé un registre canicule. Aujourd'hui, vous pouvez, notamment auprès de votre commune, vous inscrire. C'est une démarche volontaire sur ce registre canicule. Mais nous avons encore un gros travail à faire dans la société pour repérer les personnes en situation d'isolement social. On le disait tout à l'heure, ça se traduit par de l'invisibilité sociale, et repérer les invisibles, c'est quelque chose qui est complexe à faire sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan éthique.
Yann Lanier, est-ce que la mort sociale, elle frappe plus souvent en ville ou en milieu rural?
Alors, aujourd'hui, on a tendance à avoir quelques biais là-dessus, en pensant que dans certains territoires où la densité de population est faible, on va avoir plus de personnes isolées socialement qu'en ville. Nous avons fait une étude au printemps dernier dans les quartiers politiques de la ville, une étude qui s'appelle, vous parliez de Renault tout à l'heure, vieux de banlieue, on a aujourd'hui énormément de situations de personnes qui vivent la solitude et l'isolement social dans les quartiers populaires. On a mis à jour des chiffres qui m'ont beaucoup marqué dans le baromètre. 380 000 personnes dans notre pays n'ont pas de voisins. Leur habitat fait qu'ils n'ont pas de voisins. Donc, effectivement, vous avez des départements de France où le phénomène de mur démographique que nous sommes en train de vivre, ce changement démographique profond, fait que vous avez une population qui va se composer de manière majoritaire de personnes de plus de 60 ans. Mais, encore une fois, il ne faut pas croire que l'isolement social serait quelque chose de réservé à la campagne et que la ville en serait protégée. C'est absolument pas le cas.
Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on délaisse nos aînés ? Est-ce que ça a toujours été le cas ?
Je ne crois pas que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, la problématique que la société a encore du mal à intégrer, c'est justement cette démographie qui est en train de changer structurellement. Songez que dans 5 ans, il y aura 50% de 74-84 ans en plus qu'aujourd'hui. Oui. Nous avons une progression du nombre de personnes de plus de 60 ans dans notre pays qui va nous faire atteindre très rapidement un tiers de la société française. L'âge invisibilise. Et donc, plus nous avons de personnes âgées, plus potentiellement nous avons de personnes qui vont être invisibilisées dans la société si nous ne recréons pas une sorte de continuum harmonieux entre les générations.
Moi, j'ai l'impression les chiffres, que... vous pensez qu'on va avoir de plus en plus d'invisibles, s'ils sont très nombreux.
Oui, on le voit bien avec notre chiffre des 750 000, puisque ce qui provoque vous avez un lien, si vous voulez, entre cette question de l'isolement social et l'âge. Vous avez un lien entre l'isolement social et la précarité. Moins vous avez de revenus, plus vous avez de risques d'être isolé socialement. On documente 4% des plus de 60 ans en situation d'isolement social, on arrive à 9% des personnes dont les ressources sont inférieures à 1 000 euros par mois. Vous avez des phénomènes de conjonction. Et puis, on a aussi des nouveaux phénomènes. Moi, je vous inviterai d'ailleurs à vous y intéresser. Quand on parle des personnes âgées, je ne sais jamais de quel âge on parle. Oui. Aujourd'hui, on parle des plus de 60 ans, mais vous avez un champion olympique hier qui est mort à 101 ans. Donc vous voyez, ça fait quand même encore un petit bout de vie, hein, 40 ans. Voilà. Et donc, quand on parle d'âge, vous voyez, il y a des choses totalement nouvelles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nonagénaires, il y a de plus en plus de centenaires.
Personnes de 60 ans d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 20 ans. Aussi.
Bien sûr, en termes d'aspiration, d'espérance de vie. Les personnes de 60 ans d'aujourd'hui sont nées dans les années 60. Oui.
Lui, il ne sera jamais confronté au fléau de la mort sociale, car même lorsqu'il sera vieux, à l'EHPAD Thibaut InShape d'Alençon, il saura toujours tisser des liens avec les autres pensionnaires, notamment en leur offrant des mini-concerts.
Vanina, si tu m'oublies, je
Dave sera plus là pour faire le duo avec moi.
Mais Dave vous enterrera, Quentin. Vous êtes le mal incarné. On l'embrasse, évidemment. Quentin, en attendant d'assouvir enfin vos rêves de scène, dites-nous comment les passants que vous avez croisés ont réagi à ce terme de mort sociale.
Je marche rue du Faubourg Saint-Denis, que vous connaissez bien, j'entends des Parisiens qui sortent du métro et qui disent qu'ils descendent à SSD, ça me fait rire. Une fin d'après-midi où les restaurateurs attendent le coup de feu, on est dans une sorte de ventre mou agité, dans cette rue qui fourmille à toute heure. Ici, je rencontre Clémentine, elle est prof d'anglais. Que lui évoque la mort sociale ?
C'est marrant parce que j'ai préparé mes cours ce matin et j'ai un peu abordé ce sujet, je vais aborder ce sujet avec mes élèves. Pour moi, la mort sociale, c'est plus peut-être quand on est confronté à la différence, mais que du coup, ça nous tue socialement. Parce que quand on est confronté à la différence ou qu'on est trop différent de ceux, qu'on ne répond pas forcément aux attentes de nos proches, ça peut entraîner une certaine mort sociale.
Vous avez raison.
Mais oui.
Une déconnexion avec la famille.
Exactement.
Et ça va même plus loin, un choix de vie en marge. Et nous passons à côté tous les jours sans voir le problème.
C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à fermer les yeux volontairement, on n'a pas envie de voir ce qui nous dérange. Parce que ça nous renvoie à nos propres angoisses, parce que dans le fond, on est tous pareils. Hein.
Ça veut dire qu'on a peur d'être comme ça, c'est
ça ? Bien sûr. Même quand on essaye de s'en détacher, il y a toujours une part de nous, c'est inconscient. Mais oui.
Vous, il y a une part de vous qui a peur de la mort sociale.
Ah oui.
Je traverse la rue et j'arrive sous un barnum qui a été aménagé à côté d'une tente verte fluo. C'est là que je rencontre ce monsieur. Où est-ce qu'on est ?
On est à la porte de Paris, donc dans le 10e, à Strasbourg-Saint-Denis pour être plus précisément. On est ici en soutien pour Zera Kurtay. Donc qui est Zera Kurtay ? Zera Kurtay est une journaliste originaire de Turquie qui se trouve en France depuis 18 ans qui avait demandé l'asile politique. Et là, on lui a retiré du jour au lendemain son asile politique. Donc elle se retrouve sans papier, sans droit.
Bon, là, il y a un engagement pour cette journaliste, mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de m'arrêter, car j'ai l'impression que justement, quand on s'engage, on se rassemble. Ce qui me rappelle aussi un peu les Gilets jaunes. Cette porte de Paris ressemble finalement un peu à un rond-point, un endroit où l'on peut venir causer. Et sous ce barnum aménagé avec une étagère en bois, des plantes, de quoi faire un café, un peu de miel aussi, je sens que ça ouvre une porte à certains.
Parfaitement. Ça change le regard des gens et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, les gens qu'on croise ici, qu'on appelle SDF ou fou ou ce qu'on veut, finalement, ils ont besoin. On a vu ici, parce qu'on les aide, on essaye de leur apporter des vêtements propres, les envoyer à la douche, on leur sert le café le matin. Parfois, quand on a de la place, ben, on les fait dormir sous la tente aussi. Et ils sont super agréables. C'est des humains. Et ça nous blesse de voir qu'il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour devant et ils passent inaperçus, ces gens-là. Alors qu'ils ont juste besoin un peu de soutien, de morale, ils ont besoin de savoir qu'ils existent aussi. Je pense qu'on les a rendus invisibles. On trouve ça normal maintenant.
Ma dernière rencontre, à son œil gauche, dans l'objectif d'un appareil photo.
Et là, je suis en train de photographier la lumière sur la façade de ce bâtiment, en face.
C'est beau, là, hein, à cette heure-là.
Particulièrement. La mort sociale. Ben, ça me parle particulièrement. Je viens de faire une série de 3 ans de portraits de personnes âgées en EHPAD. Donc, ça me parle particulièrement.
Il me dit qu'il n'avait jamais pris conscience de la mort sociale des personnes âgées. Je lui demande ce qui l'a touché, ce qui l'a marqué dans ce projet.
Ce qui m'a touché particulièrement, ce que j'ai constaté rapidement et ce qui m'a invité à essayer, à ma petite échelle, de changer la donne quand je vais photographier ces personnes, c'est qu'on ne s'adresse plus à elles par leur prénom. C'est monsieur un tel, c'est un patient, c'est un grand-parent. Et en fait, il y a une espèce de mort de l'identité. Et quand j'allais voir ces personnes pour faire leurs photos, pour faire leurs portraits, c'était principalement pour les familles au départ. Et ce qui me choquait le plus, c'est qu'on me disait à quoi ça sert. J'ai des photos, les dernières photos, c'était... En fait, on arrête de prendre les gens en photo à partir de 50 ans, j'ai l'impression. Après, c'est une personne âgée et donc du coup, elle ne fait plus partie du mouvement de la vie. On prend 10 000 photos par jour et on préfère photographier nos repas plutôt que nos grands-parents.
C'est intéressant ce qu'il dit. Les familles ne voyaient pas en quoi il y avait besoin de refaire un portrait, une perte d'identité supplémentaire. Et nous, tous les jours, on passe à côté de gens qui n'ont pas une interaction avec un autre être humain depuis plusieurs jours, peut-être.
C'est d'une violence inouïe. Et c'est surtout le contraste avec cette ère du digital, en fait, où tout le monde prétend être ultra connecté. L'isolement est d'autant plus violent et profond, je pense. Là, je sors du métro et honnêtement, je suis content d'avoir ce regard de photographe qui me permet d'avoir systématiquement une espèce de distance par rapport aux situations que je vis. Mais en fait, il n'y a même plus de contact, il n'y a plus de contact du tout entre les gens. On est tous lobotomisés par nos smartphones.
On parle beaucoup d'isolement, mais c'est peut-être d'indifférence qu'on meurt le plus. Quand le monde ne vous regarde plus, vous cessez doucement d'en faire partie. Et c'est dans ce retrait-là que la mort sociale se loge, discrète, quotidienne et parfois même fatale.
C'est pas le micro-trottoir le plus gai qu'on ait eu. Enfin, c'est pas le sujet le plus gai qu'on ait eu. Ouais. Mais c'est un sujet important. Yann Lanier, il est intéressant le témoignage de ce photographe. Ouais. En structure, on perd son prénom, c'est monsieur un tel, papy, patient. Est-ce que c'est déjà l'effacement de la personne à partir d'un certain âge, ça?
Oui, le phénomène d'invisibilisation, il existe en fin de compte assez tôt dans la société. Enfin, j'emploie souvent cette logique. Vous avez aujourd'hui des associations de jeunesse qui réclament d'être jeunes jusqu'à 30 ans. Et puis, quand vous arrivez aujourd'hui dans l'entreprise, dans certains milieux, vous êtes déjà vieux à 45 ans. Donc, en clair, il vous reste 15 ans de vie d'adulte pour pouvoir construire une vie familiale, une carrière, etc. On vous renvoie très très vite dans les différents âges de la vie. Donc, et ce qui est aussi important à regarder, c'est que cette discrimination liée à l'âge, ce qu'on appelle l'âgisme, est encore une discrimination socialement acceptable. Derrière vos micros, partout, aujourd'hui, on peut encore dire, alors bien sûr, on le fait de manière humoristique, etc., mais les vieux, on a le droit.
De dire les vieux ?
Non, on a le droit de dire, on a le droit de bâcher.
Ah oui, oui.
Voilà. Les vieux, c'est autorisé. Vous voyez, il y a des choses qui... On est encore dans le politiquement correct. Alors, moi, c'est très bien, je suis le premier à adorer rire aussi de cela. Mais en même temps, ça dit des choses de notre société sur l'acceptabilité aujourd'hui de dire, ben voilà, là, on a encore le droit de faire des fois du... du très lourd qu'on ne se permettrait plus avec d'autres catégories de personnes.
Mais c'est peut-être lié au fait qu'on va tous être vieux un jour. C'est pas, on ne blague pas sur une catégorie de la population qui n'est pas nous, puisqu'on sera tous, on va tous passer par la vieillesse. Et encore, on aura une chance d'en passer par là.
Alors, il faut déjà tous espérer, espérer y passer, en tout cas. S'y préparer aussi, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'une des difficultés, si on regarde un petit peu comment on fait reculer ces phénomènes d'isolement social, c'est aussi comment on travaille sur la prévention, comment on aide les gens à un moment à prendre conscience que leur cercle de relations sociales est peut-être un petit peu faible.
Oui, parce que parfois quand on se rend compte, c'est trop tard.
Voilà, oui, et on peut agir et qu'on peut agir dessus.
Lui, Quentin, il dit qu'on arrête de prendre en photo les gens à partir de 50 ans. Je trouve ça un peu fort. Nous, on prend en photo Cyril tous les jours et on n'est pas là-dessus. Enfin, 50 ans, on n'est pas vieux aujourd'hui. Mais est-ce que ça peut être un déclic pour les gens qui nous écoutent peut-être, de se dire, tiens, j'ai pas appelé ma grand-mère ou mon grand-père depuis longtemps. Mmh. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut les prendre en photo? Est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'il faut partager avec eux notre époque?
Alors, on est d'abord toujours le vieux de quelqu'un, même avant 50 ans.
C'est vrai.
Prenez-moi.
Ça arrive, mais bien sûr, on a fait un rapport il y a 3 ans sur le lien entre les générations, et ce rapport disait très rapidement la chose suivante. Il disait, on interrogeait des moins de 30 ans et les plus de 60 ans. Les plus de 60 ans disaient, notre vie, elle n'intéresse pas les moins de 30 ans. Et les moins de 30 ans disaient exactement la même chose. Et c'est les lieux de rencontre, et à partir du moment où on crée de l'intergénérationnel qui soit pas factice, eh bien, ça fonctionne et ça marche, et c'est même très désirable de la part des jeunes ou des plus âgés. Donc oui, bien sûr, si après cette émission, je vous ai donné envie, vous, de téléphoner à une grande tante, à vos grands-parents et à les prendre en photo, on aura réussi quelque chose.
France Inter, Zoom Zoom Zoom, Mathieu Noël.
L'extrême solitude, peu d'entre nous l'ont vécu. Cyril, une fois à Vegas, quand après avoir assisté seul au concert de U2, il était rentré seul dans sa suite du Bellagio pour manger seul des buckets de poulet sauce ranch devant un épisode de Top Gear, avant de s'endormir seul aussi. J'imagine. Dans son waterbed queen size. Cette solitude radicale, vertigineuse, certains ne l'ont pas vécu l'espace d'un week-end, mais des mois, voire des années. Jouons au Zoom Zoom Test. Et contrairement à ce que l'hymne kékéyakékesque de Koh-Lanta laisse à penser, nous n'allons pas partir au soleil de l'Indonésie pour retrouver Denis Brognard, mais pour les contrées hostiles et glacées de la Sibérie, une terre de désolation que même les aventuriers les plus audacieux, les bibaros les plus intrépides, ajoutent rarement à leur bio Instagram. Nous sommes en 1978, et pendant que Cyril s'éclate au studio 54 avec Céron, le nez dans la chenouf, 4 courageux géologues arpentent les plaines glacées pour carotter la taïga, ce qui ne veut pas dire, Quentin, qu'ils comptent arnaquer la taïga, mais qu'ils réalisent des forages pour analyser le sol. Un jour, ils découvrent par hasard une famille qui vit totalement isolée, coupée du monde, au cœur de cette taïga depuis des décennies. S'adressant à leur fille, Agafia, ils pensent d'abord avoir affaire à une handicapée mentale, car Agafia marche à reculons, vit nue dans la neige, ou parle en roucoulant.
B. C'est trop mignon, parler en roucoulant.
C'est-à-dire, non, quelqu'un qui parlerait en roucoulant. Vous le faites bien.
Un truc comme ça,
vous avez tous les talents. Mais malheureusement, c'est Manon qui a la bonne réponse. Oui, réponse C. Sacré.
Avoir un demi-point pour avoir roucoulé.
Non, déjà, vous auriez dû avoir moins 5 pour votre réflexion sur Cyril et ses 115 ans tout à l'heure. Sacré stupeur pour nos géologues quant à la question « Quel âge as-tu ?» La gamine répond... Nom de Dieu, Jim, car l'un des géologues devait bien s'appeler Jim. On dirait le bruit que fait l'estomac de Cyril quand William tarde à apporter les croque-monsieur d'accueil. Oui, la petite Agafia parlait en roucoulant. Oui, évidemment. La petite Agafia parlait en roucoulant en raison de l'isolement. Elle parlait une langue ressemblant à un obscur roucoulement, ce qui pouvait la faire passer pour une handicapée à nos yeux occidentaux, alors qu'au contraire, elle avait développé des aptitudes hors du commun pour survivre dans cet environnement hostile. Plus jamais nous ne nous moquerons de Quentin, qui, si ça se trouve, lui aussi n'est pas nul en anglais. Il a juste développé des aptitudes hors normes.
Extremely lie. Là, je t'ai... Oui, parce qu'il y a un...
Oui, oui.
Autre
solitude, autre latitude. Direction Manon, le Mexique.
Beaucoup trop d'ailleurs.
Le Mexique, le deuxième pays de la Marianoche. À la rencontre de José Salvador Alvarenga, un Salvadorien qui va se retrouver totalement coupé du monde pendant 14 mois dans le dénuement le plus total. Mais d'après vous, pourquoi? José a dérivé sur son bateau après une tempête, on l'a surnommé El Miracolo. José s'est enterré dans la jungle pendant tout ce temps pour échapper aux narcos, on l'a surnommé El Poltrono. Ou José a perdu un pari, on l'a surnommé El Coño.
Ah, c'est moi, je crois que je suis dedans.
Yann nous a aidés.
Ah, j'ai pas. Ah bon?
Ah, Yann connaissait l'histoire. Oui, réponse A, sacré José. Il était parti pêcher le requin avec son copain Diego. Il retrouvera la terre ferme 14 mois plus tard, ratant l'élection de Trump, la mort du pape et la chronique de Quentin sur Arek, le goéland borgne qui vivait en quasi-concubinage avec Alain. En cause, une vilaine tempête qui laisse la barque de José sur le flanc. Ils vont alors dériver sans nourriture et sans radio. Même pas de quoi écouter un petit « De donde proviene ?» le doux assort local. Évidemment, évidemment. Alors, pour survivre, une seule solution. Un régime drastique à base de sang de tortue, de poisson cru et d'urine. Régime qui ne réussit pas à Diego, qui décède au bout de 4 mois. José, lui, s'en sortira 12 500 km et 1 an et 2 mois plus tard. Soit le ressenti d'un trajet en Ouigo avec Pierre Courade qui vous explique l'architecture angevine. Mais attention, top.
Qui parle tout court.
Oui, qui parle tout court, vous avez raison, de n'importe quel sujet. Attention, top, au fil au Sahara, où nous attend le malheureux Mauro Prosperi, un Italien qui va passer 9 jours totalement perdu dans le désert, survivant en faisant cuire ses rations à l'urine, puis en mangeant des chauves-souris, des lézards, allant jusqu'à se couper les veines de désespoir après qu'un avion l'a survolé au bout de 4 jours sans l'apercevoir. Tout est bien qui finit bien, car il survivra à ses blessures et tombera sur un camp de Touareg au bout de 9 jours. D'après vous, Manon Quentin, comment Mauro s'est-il retrouvé dans une telle panade? C'est un concurrent du Paris-Dakar qui s'est perdu après un accident. C'est un participant au Marathon des Sables désorienté après une tempête. Ou un restaurateur italien cherchant à échapper au fial de Pierre Courade.
B. Bah c'est...
Moi je veux dire A.
Sur le Paris-Dakar.
Du Paris-Dakar.
Ouais, évidemment.
Perdu.
Sport mécanique, ça vous plaît ça?
Avant ou après Balavoine.
Évidemment. Mais... Et c'est encore une bonne réponse de Manon Marini, c'était la réponse B.
Décidément.
Le marathon des Sables, pauvre Mauro, qui en arrivant au camp de Touareg, fit fuir une petite fille de terreur tellement il ressemblait à un mort-vivant. Il avait perdu 16 kilos et ses yeux s'étaient recroquevillés dans ses orbites. Mais l'effroi qu'a dû ressentir cette petite fille n'est rien, comparé à celui qu'a expérimenté le spéléologue Michel Siffre. Non pas en découvrant les jeux de mots désolants que Manon et Quentin faisaient sur son nom lorsqu'il a surgi à la une de l'actu à sa mort
Manon,
en 2024.
C'est Jean-Michel Siffre.
Hein. Mais durant... Non, c'est Michel. Pas. Mais durant une expérience...
Qu'est-ce que vous dites? C'est pire, quoi.
Moins deux points. Mais oui, bah oui. Durant une expérience menée en 1962, les amis, et qui consistait à s'isoler volontairement au fond d'une grotte afin d'analyser son ressenti par rapport à l'écoulement du temps. D'après vous, après être resté donc 2 mois au fond du gouffre au sens propre, sans voir la lumière du jour, sans notion du temps et sans communiquer avec qui que ce soit, quel changement a constaté ce bon vieux Michel? Qu'on avait changé 2 fois de Premier ministre? Que le temps passait beaucoup plus vite qu'on le pense? Ou que ses cheveux n'avaient absolument pas poussé sous terre?
Les trois.
Non, A et B, A et B, les cheveux ça pousse.
Et puis surtout en 62, les ministres étaient beaucoup plus stables, les premiers ministres étaient là pour durer. Quentin,
bah B, alors que B?
Que B?
Ouais.
Que B, c'est votre dernier mot? Bon, visiblement, on n'a pas le temps d'attendre. Donc oui, c'est une bonne réponse de Quentin. Sans montre ou téléphone, évidemment, Michel avait perdu toute notion du temps.
Je l'avais dit ça.
Et il avait été extrêmement surpris quand on lui avait signalé que 58 jours s'étaient écoulés depuis sa descente dans la grotte, alors qu'il avait pensé avoir passé seulement 25 jours sur Terre, c'est ce qu'il avait calculé. Le temps s'écoulerait donc 2 fois plus vite qu'on ne le pense, sauf évidemment quand on est coincé à un dîner à côté de Pierre Courade, là c'est 4 fois. Victoire de Quentin. Victoire de Quentin, vous avez eu un moins 2, vous avez été sanctionné.
On embrasse peut-être la famille de Jean-Michel, Sif, qui
est... Michel Siffre, évidemment. Michel Siffre nous a quittés en 2024.
Siffre. Oui.
Le délégué général de l'association des petits frères des pauvres, Yann Lanier, est toujours avec nous pour évoquer le fléau de la mort sociale. Alors, on a évoqué ces cercles de sociabilité qui se réduisent petit à petit. Quand il n'y en a plus, on parle donc de mort sociale, quand on n'a plus ni famille, ni amis, ni voisins. Est-ce qu'on peut sortir de cette mort sociale?
Oui.
Comment?
Ça, c'est la bonne nouvelle du jour.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est ce que font notamment les 15 000 bénévoles des petits frères des pauvres que je salue, puisque nous accompagnons une trentaine de milliers de personnes, dont beaucoup sont dans l'isolement social le plus important. Et nous remettons des gens dans la vie. C'est-à-dire que, par des choses toutes simples, encore une fois, l'isolement social, on en sort relativement facilement. Tout dépend de la profondeur dans laquelle est plongée la personne, mais recréer un cercle de sociabilité, un écosystème social autour d'elle, passe par des choses aussi simples que des visites domiciliaires, des sorties, des vacances. Les petits frères des pauvres militent depuis de nombreuses années pour le droit aux vacances de tous, et y compris des personnes âgées, parfois très malades, et nous avons la chance de faire partir plus de 3000 personnes en vacances chaque année. Donc nous avons tous une possibilité d'agir. Alors, on peut être bénévole dans des associations qui luttent contre l'isolement social, mais simplement en changeant notre regard sur les autres, tout simplement. C'était ce que disaient également des personnes dans votre micro-trottoir tout à l'heure, en étant un petit peu plus attentif, en se rendant compte par exemple que la personne qui parle un petit peu longtemps à la caissière au supermarché, c'est peut-être le seul contact qu'elle va avoir dans la journée, voire dans la semaine, en étant un petit peu plus attentif, un petit peu plus compréhensif par rapport à cela, et puis en osant prendre la parole et parler aux gens, on arrive à faire de belles choses.
Et non pas en disant Manon à la personne, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire.
Je ne dis jamais ça. Il n'y a jamais autant d'isolement social et pourtant on n'a jamais été autant connecté. Vous dites que 27% des personnes âgées n'utilisent jamais Internet, ça représente 5 millions de personnes et que c'est une tendance en hausse. Comment ça peut être en hausse? Est-ce que Internet peut aussi aider ces personnes à reprendre contact avec d'autres?
Alors, moi, je crois beaucoup que certains réseaux sociaux peuvent effectivement permettre d'entretenir le lien social. Alors, Facebook est aujourd'hui un réseau social un peu ancien, mais il permet à des personnes d'entretenir des contacts parfois avec des membres un petit peu lointains de la famille. On a une vision assez utilitariste des réseaux, enfin d'internet et du numérique pour les personnes âgées. Ça ne sert pas qu'à remplir ses impôts, même s'il y a beaucoup de nos concitoyens qui malheureusement n'exercent plus leurs droits de citoyen parce qu'aujourd'hui il faut passer par la capacité à exercer ses droits. En étant capable de se connecter à France Connect, par exemple, etc., etc. Donc il faut toujours accompagner les personnes sur l'usage du numérique, et c'est à la fois une solution pour partie, mais ça peut aussi contribuer à aussi isoler socialement des personnes, il faut en être conscient.
Si j'en crois votre dernière étude, le dispositif Bien Vieillir lancé par le gouvernement, c'est pas top.
On s'est amusé en quelque sorte à reprendre et à faire l'historique de tout ce qui avait été lancé comme initiative politique sur ces 6 dernières années pour lutter contre l'isolement social. Alors, 6 dernières années, c'est 7 ministres. Donc c'est des fois un petit peu compliqué, même si alors c'est un peu, c'est les premiers ministres, c'est peut-être un petit peu moins d'ailleurs, mais c'est compliqué pour cranter dans le temps, sachant qu'on est sur des sujets qui ne sont ni législatifs ni réglementaires. On fera pas de loi contre l'isolement social, ça servirait strictement.
Il faut une volonté politique, clairement,
strictement
pas...
à rien. Mais il faut un ministère d'incarnation. Moi, je milite pour qu'on ait un véritable ministère du lien social et de la fraternité.
Oui,
aujourd'hui.
Qui concerne peut-être pas que le troisième âge d'ailleurs.
Bien sûr.
Quels sont les autres profils de cette mort de
Cette mort sociale, ouais. si vous voulez, ces questions d'isolement social et de solitude, elles se ressentent aujourd'hui à tous les âges de la vie. Vous avez des enfants isolés, vous avez des mamans solo isolées, vous avez bien sûr des personnes âgées isolées, vous avez beaucoup de plus en plus de jeunes qui disent vivre la solitude. Une étude de 2023 de la Fondation Jean Jaurès, je crois, 71% des 18-24 ans ressentent d'y ressentir de la solitude. Donc cette question est une vraie question sociétale majeure. On va avoir des élections municipales l'année prochaine. Moi, je crois beaucoup qu'il faut certes de l'incarnation nationale, mais il faut surtout, au niveau local, des initiatives. Et ce qui se passe aujourd'hui sur les questions budgétaires, notamment pour la vie associative, est quelque chose de dangereux, parce que couper le lien social, c'est aussi fabriquer de l'isolement social à terme.
Un ministère du lien social pour le diriger, Yann Lanier, est disponible. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir, avec toujours beaucoup d'émotion, la pièce jointe de Manon Mariani.
Un méchant culte.
Why so serious?
Le Joker, le personnage apparaît en 1940 dans le premier comics sur Batman. Il est inspiré à la fois d'une carte à jouer, du film de 1928, L'Homme qui rit, et du clown de la fête foraine. Comme beaucoup de personnages de comics, il a plusieurs versions de lui qui ont été reprises dans des films. Celle de Jack Nicholson dans les années 80, où il est une sorte de parrain mafieux carnavalesque. Celle de Heath Ledger en icône anarchiste dans The Dark Knight. Et celle de Joaquin Phoenix, une figure plus tragique, fruit de la relégation sociale. Car dans le film de Todd Phillips, on découvre un personnage beaucoup plus complexe. Il n'est pas que le simple ennemi de Batman totalement barge. Il est avant tout Arthur Fleck, un homme isolé, précaire, ignoré par les institutions. Ses troubles mentaux sont accentués par son isolement et son suivi psychiatrique est interrompu faute d'argent. Son trouble de la personnalité fait qu'il ne peut s'empêcher de rire excessivement. Il y a une scène dans le film qui m'a brisé le cœur. Il prend le bus et il se retrouve à côté d'une maman et de son fils. Il est pris de l'un de ses rires incontrôlables et il va donner une carte à la maman pour lui indiquer qu'il a une maladie et qu'il ne peut pas s'empêcher de rire. Mais évidemment, elle prend peur, elle s'en va en le laissant avec son rire, sa solitude et ses larmes. Arthur Fleck est un marginal. Il vit seul, il s'occupe de sa mère seule, il n'a pas d'amis et il rêve de participer à un talk show qu'il adore pour sortir de son isolement. Arthur n'existe plus aux yeux des autres, il se fait humilier, violenter agressée quotidiennement jusqu'au jour où il n'a plus d'autre moyen que la violence pour devenir visible. C'est là où son double maléfique va naître dans une scène assez mythique. Il est invité dans le fameux talk show qu'il regarde en boucle. Il arrive maquillé avec un costume et s'en prend au présentateur.
What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash?
Call the police.
I'll tell you what you get.
Call the police.
You get what you fucking deserve.
Qu'est-ce que vous obtenez quand vous mettez un solitaire souffrant de troubles mentaux face à une société qui l'abandonne et le traite comme une merde? Il devient une icône des marginaux. Pour la première fois, des gens l'acclament et s'identifient à lui. Arthur Fleck n'existe plus. La société le renomme le Joker.
Et espérons que tout le monde ait vu le film, parce que sinon, vous l'avez bien spoilé. Merci, Manon. Non
c'est pas...
Ah, si,
c'est pas un gros spoiler,
c'est un film
quand même.
Culte, tout le monde l'a vu.
Oui. Ah oui, oui, oui.
Merci,
vrai.
Quentin.
Merci, Quentin, de soutenir Manon. Vraiment indissociable dans cette émission. Vous allez vraiment m'enterrer tout.
Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
C'est, ça va déjà être le meilleur moment.
C'est vraiment bon, ça.
C'est tous les jours
le
meilleur.
Ah oui, donc c'est le best-of qui commence déjà. Au moment de Pierre Courat, c'est étonnant. Au musée des arts déco qu'il visitait ce week-end, il a été victime d'un curieux quiproquo. Puisqu'en effet, peut-être traumatisé par le récent cambriolage au Louvre, un agent de sécurité s'est jeté sur lui alors qu'il sortait de la salle pop culture. Je suis désolé, j'ai cru que c'était la statue d'Alain Souchon qui se dépassait toute seule. J'ai paniqué, déclara le vigile devant la commission interne du musée. Pierre, chassons ce mauvais souvenir et résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur le phénomène de mort sociale en une minute chrono.
La mort sociale, un phénomène décrit par notre invité, le délégué général de l'association des petits frères des pauvres, Yann Lanier. Une situation dramatique qui touche 750 000 personnes âgées actuellement en France. La mort sociale, c'est lorsque nous sommes coupés de nos cercles de sociabilité, la famille, les amis, les voisins, le monde associatif et le travail, lorsque nos contacts sont inexistants ou extrêmement faibles. Petits frères des pauvres a mesuré une dégradation de la situation au cours de ces différentes enquêtes. Notre invité nous a expliqué qu'être une personne vulnérable ou précaire pouvait rapidement conduire à une mort sociale. De même, des déménagements ou des licenciements peuvent pousser des personnes dans cette situation. Enfin, le deuil est aussi une des causes de la mort sociale. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'âge qui amplifie ce phénomène. Et avec une France qui vieillit, on est face à une épidémie de solitude et mécaniquement à une invisibilisation des personnes âgées. Heureusement, on peut en sortir. Hein, c'est le but de l'association des petits frères des pauvres. Mais chacun peut aussi passer un coup de fil à ses grands-parents ou prendre des nouvelles de voisins qu'on croise rarement. C'est aussi ça, la fraternité, Mathieu.
Oui. Passer un coup de fil à ses grands-parents, n'est-ce pas, Manon? Ça peut être le moment ou jamais.
Oui, bien sûr. Merci de dire des choses que je vous confiais hors antenne.
On parlait de lien social. Et on a vu pendant cette chronique où Manon a failli s'étouffer en direct que Cyril, au lieu de venir à son secours, soupirait et levait les yeux au ciel. C'est exactement ce qui s'est passé.
C'est
une
honte. C'est la personne qui tousse le plus.
Vous avez toussé pendant plusieurs mois.
On est en retard.
On va écouter à présent GC. Vous avez raison, nous sommes en retard. La mort sociale, voilà un thème qui l'a particulièrement touché, je crois.
Ah bah oui, Mathieu. Franchement, moi, tous ces petits vieux qui sortent plus de chez eux tellement ils sont liquides. Ah bah, cette émission aurait pu s'appeler un portrait des auditeurs d'Inter.
Oh!
Bah, oui, eh bah, je peux témoigner, ils sont à mon spectacle au premier rang toutes les semaines, on doit leur donner des mouchoirs tellement ils bavent. Alors, autant quand le thème c'était les milliardaires, hein, nos auditeurs étaient là. Concernés, étant hein, donné qu'ils bouffent tous des cailloux, hein, bah, contrairement aux auditeurs d'Europe 1 hein, qui bouffent des migrants. Autant pour le thème d'aujourd'hui, je pense que là, il y en a quand même 2-3 qui nous écoutent avec la couche pleine.
Oh
bah pardon, mais ça sent jusqu'ici. Ah non, pardon, c'est la courade qui est plus étanche. Fais gaffe, ma puce, tu vas finir à l'EHPAD plus tôt que prévu, hein, toi, avec ce que tu fais de tes week-ends. Hein, je t'ai déjà dit, ça se reconstruit pas, les sphincters.
Oh, non, mais non.
Après, je parle de nos auditeurs. Je fais vraiment ça que pour vous choquer. Après, je parle de nos auditeurs, hein, mais il y a quand même qu'à regarder hein, les cheveux de notre speakerine et de son rédacteur en chef pour comprendre que eux non plus, hein, les cellules font plus la photosynthèse. Ah bah pardon, ouais, mais le seul truc plus vieux que Cyril ici, le bâtiment. Et bien sûr qu'on vous rendra visite à l'EHPAD avec Manon et Quentin. On a l'habitude que Cyril nous chie dessus.
Hein?
Et en disant ça, je me rends compte que la fraîcheur de cette émission repose sur Manon et Quentin.
Ouais.
C'est peu dire qu'on n'est pas chez Quotidien.
Non,
je rappelle que nous, Yann Marguet, c'est notre atout millennials. Hein. Chez Quotidien, c'est le joker d'apathie. Après, je fais le malin, mais je suis sorti en boîte il y a 10 jours. J'ai encore des palpitations à cause de la Red Bull. Voilà, et j'ai un acouphène à l'oreille gauche. gauche. Voilà, hein, bah, tu me passes au carbone 14, la machine indique premier quart néolithique. Hein, et en plus, attendez, et à la soirée, j'ai donné mon 06 à un mec et il m'a dit, mais non, 06 à l'ancienne. J'ai même pas compris tout de suite. Je pensais qu'il me disait que j'étais un ringard de donner mon numéro. Pas du tout. En fait, je suis vieux parce que j'ai un 06 et pas un 07. Mais bien sûr que je suis vieille, ma puce, à chaque fois que je fais un pas de danse, je pète un peu. Oh. Et attendez. Après, le mec m'a dit, moi je suis un 2002 et toi, ça m'a énervé. Je suis parti. Ah, non, mais depuis quand on s'identifie à une année de naissance? Hein, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, je suis un 1992. Bon, déjà parce que c'est trop long à dire. Et à cet âge, chaque minute compte. Hein, et ensuite, 2002, c'est pas une année de naissance, c'est Skaterboy d'Avril Lavigne. Ah, Manon, on est d'accord. En plus, c'est bien. Non, mais de toute façon, c'est bien simple. J'avais l'impression d'être Francis Holm à la sortie d'un lycée. Non, mais moi, si c'est pour vivre ce genre d'interaction quand je sors, je préfère encore la mort sociale. Hein, voilà, m'enfermer chez moi et qu'on me retrouve tout sec devant des redifs des frères Scott. Et en vrai, si je meurs, franchement, je suis même pas sûr que mes voisins soient alertés par l'odeur. Hein. Ils ont trop l'habitude de mes lavements foireux. J'ai fait ça que pour le de Manon. Et tu devrais en faire aussi des lavements, ça te ferait pas de mal, ma puce. Bah non, mais oui, son mec en a marre d'être un Mikado.
Mais ça va pas.
Voilà.
Je t'autorise pas, je sais.
On arrête tout.
J'ai fini, laissez-moi finir. Non, mais en vrai, je crois que je vais finir comme un petit vieux, hein. Seul, pauvre et oublié. Ce qui sera aussi le titre de la biographie de Pierre Courade.
Ce sera mérité.
Il a tout mis dans cette chronique. Si j'étais Pascal Praud, je vous dirais on arrête tout. On arrête là, mais vous avez arrêté de vous-même. Jessie, on vous retrouve la semaine prochaine peut-être dans Zoom Zoom Zen et au Théâtre des Mathurins pour 8 représentations exceptionnelles en juin 2026 et puis en tournée partout en France dès janvier. Toutes les infos sur icigc.com. Merci Yann Lanier de nous avoir permis de mieux saisir l'ampleur du problème de la mort sociale. C'était avant l'intervention de cet Olibrius, évidemment. Je rappelle que vous avez un vrai métier. Vous êtes le délégué général de l'association des Petits Frères des Pauvres. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Il a rigolé notre invité. J'ai vu, hein. J'ai vu, monsieur.
Zoom Zoom Zen.